Et vous écoutez France Culture. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Une main blanche sortait du mur, à la gauche de mon lit, et lentement s'approchait de mon visage. J'étais entré dans le cercle, et pour en sortir, il me fallait revenir aux origines des images. Stéphane du Ménildo. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui ira donc ce soir aux sources et au cœur des images, cher à l'historien et critique de cinéma Stéphane du Ménildo, imaginier Jess Franco, Paul Morisset, Hideo Nakata ou Bong Joon-ho, entre autres, chronique également dans cette émission de Border, le film d'Ali Abbasi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre cinéma ce soir et le cinéma de Stéphane du Ménildo. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas un tout nouveau à Mauvais genre, puisqu'on avait déjà eu le plaisir de vous accueillir, je crois, il y a combien de temps, Philippe Rouillet ?
Il y a 6 mois. Pour la visite de l'exposition des fantômes et esprits asiatiques.
Voilà, de l'extraordinaire exposition. À défaut d'y être allé, vous pouvez toujours et vous devez vous acheter le catalogue. Donc, Enfer et fantômes d'Asie, vous étiez notre invité avec votre collègue.
Oui, Julien Rousseau, commissaire de l'exposition. Je me souviens, oui, c'était très agréable de visiter donc ces enfers, de venir à l'encontre des fantômes en votre compagnie.
Alors, c'était déjà une première rencontre, mais on a souhaité une seconde rencontre et on s'est accroché, si j'ose dire, adossé à la parution donc d'un très beau livre sur Memories of Murder, l'enquête, un livre que vous signez et qui est consacré donc au film de Bong Joon-ho. On en parlera bien sûr dans cette émission. Je serai en présence, il a déjà parlé, de Philippe Rouillet qui s'est tranquillisé après notre entretien avec Charlotte Rampling.
Ah ben, un moment de tranquillisation. On savoure, et on a donné donc rendez-vous aux auditeurs pour la prochaine session, début février.
Voilà, le 8 février, nous reprenons l'entretien pour une deuxième partie. On parlera cette fois de Max Mon Amour, un film qui doit vous plaire, Stéphane du Ménildo. Et puis des films qu'elle a fait avec Ozon, et voilà. Donc ce sera
quelques autres encore. Non, c'est un beau panier garni. Hein. Elle a été assez formidable tout du long. Si vous avez aimé la première partie, vous aimerez
vous
la deuxième.
Vous adorerez la deuxième. De toute façon, on vous la rappellera. Et puis on espère peut-être la voir une troisième fois pour le film de Verhoeven.
Bah, qu'on espérerait voir à Cannes, mais je sais pas.
Voilà, on ne sait pas quand le film sort, mais en tout cas, on y pense. Fausto Fazulo, bien sûr, et les nôtres. Comment va-t-il? Bonne année.
Bah, bien, bonne année, François, bonsoir. Alors, je sais pas si c'est dans le bon ordre, tout ce que j'ai dit, mais.
non, tout va bien. Donc, il faut lire, bien sûr, le dernier numéro de Mad Movies, où on peut dire, on sait ce qu'il faut voir.
C'est ça, on a tenté d'éplucher et de donner quelques prédictions concernant l'année fantastique 2019.
Voilà, on retrouve également Fausto dans le bonus de la prochaine parution de la collection du camarade Toré. Donc c'est Road Games,
Film
qu'il faut pas rater parce que j'avoue c'est comme tous ces films un peu atopiques australiens, c'est quelque chose de totalement vertigineux.
Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que la Hostpotation est quand même une cinématographie assez peu connue, on va dire, et puis assez peu médiatisée, donc c'est toujours intéressant d'y plonger et d'y revenir. Là, Road Games, c'est un film en plus très rare, donc c'est vraiment une belle opportunité que de le découvrir en plus en Blu-ray.
En Blu-ray. Stéphane du Ménildo, vous êtes un amateur d'Australian Movies.
Bah oui, évidemment. Moi, je me souviens, il y a un très beau film qui s'appelle Long Weekend, par exemple, hein, qui est presque dans des ambiances un peu d'horreur japonaise, hein, puisque on ne sait pas du tout d'où peut venir la menace. Elle est là un peu partout dans la nature. Ça rappelle un peu Charisma de Kyoshiko Urasawa, par exemple. Donc, il y a vraiment, oui, quelque chose de très, très particulier qui s'est passé en Australie pendant les années 70, en fait. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, en fait. Hein. Peut-être que c'est venu d'éléments un peu extérieurs, comme la randonnée de Nicolas Roeg ou Waking Fright, qui a fait naître quelque chose dans ce pays, dans ses étendues, dans ces créatures, ces kangourous, là, qui d'un coup sont devenus des personnages étranges.
Bah, on consacrera peut-être une seconde émission au cinéma australien.
Voilà, il y a une nuit au Exploitation au festival de Gérardmer la semaine prochaine, où il y aura justement Long Weekend.
Festival où vous serez.
Oui, et où on doit rencontrer Udo Kier pour Mauvais genre. Donc, voilà.
Absolument. Ben là,
je vous en ferai compte rendu avant Charlotte.
L'Exploitation, précision ultime.
Et c'est ce que disait Stéphane. Voilà. C'est le cinéma d'Australie, le cinéma
l'exploitation australienne.
L'exploitation australienne. Et donc Long Weekend sera au cœur d'une nuit le vendredi soir.
Excellente nuit. En attendant, nous allons passer un excellent moment en compagnie de Céline. Bonjour.
Bonjour, bonsoir, François.
Alors là, c'est monsieur...
Eh bien, c'est monsieur une encyclopédie L. entièrement consacrée à monsieur Jean-Jacques Lequeux.
C'est un des dessins les plus célèbres de Lequeux. Encore aujourd'hui, il fleurit dans les rues. Hein. Il est très frappant. Il s'agit d'une religieuse qui soulève le voile qui couvre sa poitrine, la guimpe, c'est le nom de cette pièce de vêtements, révélant une poitrine à demi découverte, très charnue, puisque c'est évidemment un fantasme de Lequeux, largement partagé, il est vrai. Mais c'est vrai qu'il a conçu une méthode de dessin qui simplifie les corps en volume géométrique, et on en voit la trace ici. Alors, ce dessin est saisissant, puisque, effectivement, c'est pas le genre d'image qu'on voit très souvent. En même temps, c'est un dessin qui est très inscrit dans l'actualité, puisqu'il est daté de 1793. Et qui est le moment où, en effet, les ordres religieux sont interdits, les vêtements religieux sont interdits, même dans l'espace public. Et donc, c'est une manifestation, peut-être d'une adhésion, à ce moment de la Révolution française, qui est bien sûr un des moments les plus forts et les plus aigus. C'est bien difficile de savoir ce qu'il pensait véritablement. En tout cas, le qualifier d'architecture révolutionnaire, à partir de ce dessin en particulier, serait extrêmement risqué. La chronologie de son œuvre n'est pas établie, on ne peut pas vraiment le faire, il n'y a pas de style, il n'y a pas de... Voilà, donc on ne peut pas le dire, mais vraisemblablement, je pense qu'à partir d'un certain moment, il a libéré ses instincts, cultivant ce mauvais genre.
Les historiens ont vu chez Jean-Jacques Lequeux un esprit extravagant. Il a été qualifié de maniaque, névropathe, pervers, voire même de petit employé de bureau. Alors à ce cortège élogieux de qualificatifs, on a très envie d'ajouter « mauvais genre ». Car oui, cet homme qui aujourd'hui encore reste plein de mystères est un bien étrange personnage, difficilement classable ou qualifiable. Il fut un architecte raté, lui dont la carrière montante a été stoppée par la mort de son protecteur, l'architecte Soufflot, et par l'arrivée de la Révolution française. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à imaginer des projets architecturaux plus fous et audacieux les uns que les autres, qui tous ont été refusés. De dessiner des paysages ou des constructions fantasmées où les grottes et les fontaines ressemblent à s'y méprendre à des sexes féminins. Et puis bien sûr, il y a ces dessins érotiques qui, à partir de 1830, ont été conservés dans l'enfer de la Bibliothèque nationale sous le titre de figures lascives et obscènes. Il faut dire que Lequeux n'y va pas par quatre chemins. Ses vulves anatomiques sont grandes ouvertes, ses clitoris bien cambrés, ses femmes urinent ou se masturbent, mais à la façon de Lequeux, c'est-à-dire en mêlant un style direct, anatomique, un langage cru, car le texte chez lui est souvent aussi important que le dessin, des constructions architecturales et une vraie forme de poésie. Mais il n'y a pas que des vulves chez Lequeux. Cet homme a aussi dessiné beaucoup de phallus. Laurent Baridon, professeur d'histoire de l'art à Lyon 2 et co-commissaire de l'exposition Jean-Jacques Lequeux, bâtisseur de fantasmes.
Il y a une chose qu'il faut signaler quand même à propos du phallus qui est peut-être plus présente que pour les sexes féminins, c'est un fond de culture antique qui est présent. Alors on le retrouve aussi dans la représentation des femmes, dans la mesure où souvent ces femmes sont qualifiées de noms de divinités de l'Antiquité liées à l'union amoureuse, au mariage, etc., etc. Donc il y a toute une culture antique que le Lequeux mobilise, mais c'est encore plus vrai dans le cas des phallus, et en particulier les références à Priape sont très nombreuses. C'est tout à fait inscrit dans la culture du XVIIIe siècle, puisque de nombreux érudits avaient publié sur les découvertes d'Herculanum, où on avait trouvé des phallus votifs, et on avait même exploré la survivance de ces cultes dans l'Italie du Sud. Tout ça a été publié, avait donné lieu à une littérature parfois archéologique, parfois plus proche des romans érotiques, mais en tout cas c'était très connu, et c'était des objets évidemment très, très frappants. N'oublions pas qu'à la même époque, Catherine II a un cabinet secret avec des meubles en forme de phallus, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez répandu, même si ça reste bien sûr secret et entre quelques mains seulement.
Alors est-ce qu'on pourrait avoir une description d'un des dessins avec un phallus, je ne sais pas, prenons votre préféré.
Alors par exemple, la verge atteinte de paraphimosis représente le bas du corps d'un homme qui, si on l'observe bien, est en fait un satyre, puisque les cuisses sont extraordinairement poilues. Hein, ce sont vraiment de longs poils qui ne peuvent pas appartenir à un homme normal, si l'on peut dire. Et alors surtout, ce qui est caractéristique dans ce dessin, c'est cette verge nouée, hein, effectivement, par une paraphimogie. C'est ainsi que le nomme le queue, mais le nom scientifique, c'est paraphimosis. C'est une déformation du prépuce, que le queue appelle crépus, parce qu'il n'est pas une approximation près, hein, dans ses dessins de sexe, mais aussi dans ses dessins en général. Et en plus, il représente quelques gouttes qui tombent du gland pour indiquer une chaude pisse, comme on dit vulgairement, hein, donc une infection. Et alors c'est un dessin assez curieux, puisque c'est à la fois une culture antique, le satyre avec le fond de culture sur Priape, etc., et en même temps, effectivement, une approche anatomique d'une affection sexuelle. Donc ça résume bien, finalement, c'est les différents intérêts de Lequeux à travers ce dessin.
L'exposition Jean-Jacques Lequeux, bâtisseur de fantasmes, est à découvrir en ce moment au Petit Palais, et ce, jusqu'au 31 mars. Une exposition organisée avec la Bibliothèque nationale de France qui conserve depuis la mort de Lequeux en 1826 la quasi-totalité de son œuvre.
Merci Céline, il n'y a pas que des vulves chez Lequeux. Mauvais genre, l'émission où le signifiant règne en maître. Une réaction, Stéphane Dumenildo, vous qui avez le catalogue en main.
Bah oui, c'est absolument fascinant parce qu'on voit des statues qui sont presque sur le point de prendre chair. On est vraiment à la lisière, elles ne sont pas encore tout à fait vivantes. Là, je vois par exemple femme surannée, là, elle a les yeux baissés comme une sorte de pudeur, mais on sent qu'elle pourrait d'un instant à l'autre les rouvrir. Et puis même, on voit là la poitrine, elle est presque, on sent qu'il y a quelque chose qui palpite, qui est en train, voilà, de prendre chair. Et en fait, je pense que comme beaucoup de gens, la première image que j'ai vue, outre l'image de la nonne dépoitraillée, là, évidemment que si on a lu le moine, ça c'est une image qu'on a en tête, c'est cette image d'un homme qui crie ou qui rit en même temps, avec un chapeau et en...
C'est ses autoportraits, oui.
Oui, et ça, en fait, j'ai longtemps cru que c'était une image de Topor, parce que j'avais pas vraiment vu le nom du dessinateur. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est transmis, hein, de Lequeux à Topor, d'une certaine façon. J'imagine que c'est peut-être un héritier, mais c'est sûr qu'il devait le connaître et beaucoup l'aimer.
Merci Stéphane Dumenildo, merci Céline. Eh bien, l'heure est maintenant venue pour nous de rejoindre vos fantômes, Stéphane Dumenildo. Ce fut d'abord une rumeur née dans les charniers d'Europe de l'Est, dans des villages maudits, ravagés par la guerre et les épidémies. Ironiquement, ce fut le siècle des Lumières qui m'enfanta et me baptisa du nom que je porte encore, Vampire. Je n'étais alors qu'une larve s'extirpant de la terre noire. Le romantisme m'a rendu plus présentable et a fait de moi ce grand homme pâle, vêtu de sombre, un donjon d'outre-tombe, une attraction des salons à Londres. J'ai bu à la gorge des vierges victoriennes à Paris. Je fus la coqueluche des décadents, des hétéromanes, des phtisiques. Ces énervés voient un culte aux teintes livides et aux reflets glauques. Mais on se lassa de mes maléfices gitans et de mes mœurs équivoques, contenta de me renvoyer dans mon vieux pays natal pour m'y détruire. Il faut croire que je faisais tâche dans un monde ayant troqué la magie pour le chemin de fer, le télégraphe et le triste peuple des usines. Pourtant, cette société industrielle qui crut m'anéantir allait me donner la vie éternelle. « L'ouverture de Miroir obscur, une histoire du cinéma des vampires de notre invité de ce soir, Mauvais Genre sur France Culture, Stéphane Duménildo. C'est toujours intéressant de démarrer par le texte même, puisque vous êtes à la fois un écrivain et un historien analyste du cinéma. Je cite les ouvrages de vous que l'on peut lire, donc le Miroir obscur, donc c'est Rouge Profond sur les vampires. Geste Franco, énergie du fantasme, c'est aussi chez Rouge Profond. Fantôme du cinéma japonais, toujours chez le même éditeur. Et puis très récemment, vous avez eu le prix Sade pour l'adolescente japonaise aux éditions Le Murmure, et vous êtes avec nous ce soir plus directement pour ce livre sur Memories of Murder. Signalons également au cahier du cinéma un petit livre sur La mort aux trousses. Voilà les œuvres complètes pour l'instant, 2019.
Et le catalogue aussi.
Et puis le catalogue, bien évidemment, de l'exposition Fer et fantômes d'Asie. Alors Stéphane Duménildo, vous êtes quelqu'un de secret et de discret, parce que j'ai cherché vainement sur Internet des renseignements sur, je dirais, votre enfance, votre formation, votre jeunesse. Alors c'est très, très étonnant, puisqu'on trouve une famille Duménildo dans la noblesse normande des 17e et 18e siècles. Vous nous avez appris que vous êtes un descendant du cardinal de Bernis, c'est le premier à venir à Mauvais Genre. On salue le cardinal. Et puis sinon, donc effectivement, collaborateur très régulier des cahiers du cinéma, vous avez enseigné à un moment l'histoire du cinéma. Mais encore, Stéphane Duménildo, qu'est-ce que l'on peut dire de votre parcours? J'ai essayé de détecter cette information que enfant, vous aviez été marqué à 7 ans par la vision dans un film d'une statue d'un ange aux yeux brillants.
Ah oui, mais ça c'est vraiment, on pourrait dire, une des images fondatrices. Hein. C'était à la télévision et d'un coup je vois ce début de film avec un petit garçon perdu dans un cimetière et puis une statue d'ange aux yeux brillants, mais un ange démoniaque. Et alors, crise de terreur, je ne peux pas continuer le film et on me dit d'aller me coucher.
Vous aviez quel âge ?
Ça devait être 7-8 ans.
Hein. Et c'était la télévision française.
C'était la télévision française, en noir et blanc.
Et savez-vous quel était le film
qui est en couleur?
Oui, alors j'ai mis très longtemps avant de l'identifier, et c'était évidemment Moonfleet de Fritz Lang. Mais évidemment, donc, j'ai l'impression qu'on est toujours en quête de ces images-là, et puis bon, quand on les découvre, il y en a toujours une autre qui apparaît, évidemment.
Alors ça, c'est l'image marquante, mais depuis, quels ont été un peu les autres moments marquants, je parle, les théoriciens du cinéma, les films, qu'est-ce qui a marqué votre parcours pour en arriver aujourd'hui à ces livres dont j'ai cité les titres?
Ah bah, il y a eu assurément les films de Brian De Palma, ça aussi, hein, parce que je me souviens, c'était dans ce qu'on appelait encore les nuits du fantastique, qui se passaient dans des cinémas, là, c'était en l'occurrence en province, c'était Aix-en-Provence, où il y avait 5 films pendant la nuit. Alors quand on arrivait, en plus, quand on voyait ça à 13-14 ans, c'était des films qu'on n'avait vraiment pas pu voir puisqu'ils étaient sortis 3 ans avant à peu près. Donc là, c'était assez strict dans les cinémas, on ne pouvait pas aller voir ce genre de films. Et en tout cas, ils avaient passé à la suite Carrie et Pulsion. Donc c'était idéal puisque ça permettait déjà d'avoir un choc, une sorte de choc de cinéma énorme, parce que voilà, de Palma, il y a un effet, bon, on voit le cinéma en fait devant soi. Avec toutes ses puissances, avec son érotisme, sa violence, sa beauté, sa vulgarité. Enfin, d'un coup, on est devant un monde complet. Et ça permettait aussi d'avoir les deux films à la suite, de repérer déjà des choses, en fait. De dire, ah oui, tiens, il y a des scènes de douche, il y a des ralentis, des choses comme ça. Donc, c'était une sorte de petite entrée aussi dans l'analyse du film.
Philippe Rouillet, pour vous, Stéphane Duménildo, outre l'exposition avec laquelle on l'a visité, enfin, qu'il a organisé.
Moi, je l'ai lu dans les cahiers, je l'ai lu ailleurs. C'est quelqu'un qui pour moi a été très, depuis longtemps, un historien et un critique du fantastique. Et je suis pas étonné, par exemple, de son amour pour Border, qui est en ce moment à l'écran, dont on parlera tout à l'heure, qu'il faut absolument aller voir, comme l'an dernier, des Garçons Sauvages. Je veux dire, on se retrouve sur un certain nombre de films de l'actualité. Je mets à part le côté histoire du cinéma, mais et y a forcément un amour pour un cinéma de genre libre et aussi pour un certain maniérisme parfois qu'on peut aimer.
Ah bah est-ce que Les Garçons Sauvages, ça peut rentrer là-dedans? Mais c'est vrai que, mais même au-delà de ça, Les Garçons Sauvages, c'était le film que je rêvais de voir. Hein. Voilà, il y a un film qu'on a envie de voir toute sa vie. Bon, parfois, il a été tourné bien longtemps avant sa naissance. Mais là, d'un coup, c'était là. C'était le film que je voulais voir à ce moment-là, quoi.
Un film de Bertrand Mandicot qui est désormais en Blu-ray et DVD. Si
avec un livret, donc,
avec un livret de notre invité, Stéphane Duménildo.
Plus des archives dans le livret
Fausto, vous,
de
qui
Mandicot.
Est rédacteur en chef de la revue Atome, qui travaillait avec Stéphane. Alors vous, quelle est un peu la vision que vous avez du personnage?
Bah, il rend ses textes à l'heure, c'est bien. Il
fait oui, ça, chose. C'est déjà une qualité.
Ils sont bons, alors.
Bah, évidemment, sinon je ne ferai pas appel à lui. Mais la première chose qui me frappe, en fait, c'est toujours un peu compliqué de parler de quelqu'un qu'on connaît un petit peu, mais en fait, finalement, quand on a le corpus de livres sous les yeux, tout est très cohérent, et parfois on a la sensation qu'un livre en annonce un autre. C'est-à-dire que quand je regarde, par exemple, la couverture du Miroir obscur, quand je regarde Elle Fanning, d'une certaine façon, son look me rappelle l'adolescente japonaise. Donc j'ai l'impression que ça annonce quelque chose. Quand je lis en fait le tout début de Fantôme du cinéma japonais, vous dites justement avoir découvert Ju-on par le témoignage en Corée, en tout cas que c'était des collégiennes qui étaient fans de ce film-là, et c'est comme ça en fait que la saga de Shimizu a été portée à votre connaissance. Et d'une certaine façon, ce livre-là est aussi lié à l'adolescente japonaise. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des ramifications entre les différents livres.
Memories of Murder, deux hommes au fond d'un tunnel, donc.
Voilà, il y a carrément une mise en abîme, c'est faire une enquête sur un film qui est lui-même une enquête. Mais c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que tout est très cohérent et on a l'impression, en fait, que un livre en annonce un autre. Donc, j'ai pas envie de faire une sorte de conclusion à cet entretien qui a à peine commencé, mais on a envie de vous demander quel va être le prochain livre, du coup. Parce que, il y a comme ça cette espèce de galaxie et c'est très amusant en fait de tout relier, je trouve.
Alors le prochain livre, j'aimerais bien que ça soit sur l'Empire des Sens, voilà, que je suis en train d'écrire. Alors je sais pas si ça a des ramifications avec d'autres choses que j'ai écrites, mais là aussi c'est un film que j'ai envie d'explorer un peu mieux et puis aussi de revenir sur la figure d'Abe Sada. Donc là ça rejoint un peu peut-être l'adolescente japonaise puisque il est question aussi de la liberté des jeunes femmes au Japon.
Et puis les fantômes d'Asie, puisque vous évoquez aussi des photos médiumniques, enfin des photos et des personnages qui ont réellement existé. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé pour avoir donc lu à peu près, avoir lu tous les livres que vous avez publiés, c'est que d'abord, c'est la violence affective. L'image est porteuse d'une violence, d'un affect violent. Elle est là pour vous agresser, pour vous révéler à vous-même, mais selon le mode de l'agression, sur le mode du rapt, de la violence. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Ce qui fait que vous êtes, dans vos textes, il y a fois des analyses de plans, des analyses de séquences, des narrations de carrière, et par moment, brusquement, arrive une émotion personnelle qui est basique, première, la peur, la terreur, l'angoisse. Donc il y a toujours, ce qui fait que vos livres ont cette force, c'est qu'il y a un mélange permanent entre une expérience de spectateur presque au premier plan, c'est-à-dire à vif, et une intelligence analytique. Donc vous arrivez à équilibrer, à marier les deux, c'est-à-dire à la fois une sorte de le carnet de bord d'un cinéaste violent, d'un spectateur violenté, et puis les travaux d'un historien.
Il y a une idée qui me plaît quand même, qui est l'idée que les films contiennent du mystère, et qu'on a envie justement de partir à l'intérieur, de partir faire une enquête, partir dans des pays aussi où ils ont été créés. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de cette enquête, on peut avoir très peur aussi. Hein. On peut aussi rencontrer des formes inquiétantes.
Mais qui sont les vôtres. C'est une enquête sur soi-même. C'est vraiment, on a ce sentiment fort, c'est aussi un voyage au bout de soi-même.
Probablement.
C'est les yeux de l'ange qui clignotent toujours dans la nuit.
Voilà, probablement. Mais c'est vrai que, par exemple, le texte de l'histoire de Fantôme.
Histoire de fantôme japonais.
Fantôme du cinéma japonais.
Fantôme du cinéma japonais.
Voilà, sur ce cauchemar que j'ai eu après Ring. Oui, en effet, il a existé, donc, mais j'étais assez content aussi qu'il se produise, parce que ça montrait qu'en effet, le film pouvait, un film pouvait créer ça.
Sortir de l'écran. Fausto.
Ce cauchemar et la manière dont il est écrit, décrit, c'est très intéressant, puisqu'on a vraiment la sensation de lire une sorte de scénario et de se visualiser une scène de film. Donc, c'est l'effet de vertige que ça provoque est assez intéressant. Moi, je voudrais ajouter un mot, en fait, sur le style. Il y a une très grande érudition, effectivement, qui se dégage de tous ces textes, et en même temps, c'est parfaitement accessible. Et je tiens à le dire, puisque c'est vrai que parfois, on peut être, quand on est profane, on peut être un petit peu effrayé par un sujet, ou justement par tout ce que ça peut comporter de clés de connaissances qu'on ne possède pas. Mais je trouve, dans votre style, une grande qualité, c'est justement d'être parfaitement accessible tout en étant toujours érudit.
La musique de Vampiros Lesbos de Jess Franco, ça c'est le premier livre, je dirais, ou peut-être pas le tout premier, mais enfin, premier en tout cas avec Rouge Profond. Stéphane Dumenildo, Énergie du fantasme. Alors, vos livres ont des couleurs. Là, c'est le livre en rouge vif.
Oui. Bah, Jess Franco, justement, ça a été Vampiros Lesbos, la porte d'entrée, que j'ai découvert à la Cinémathèque, voilà, aux séances de Cinémabis, programmée par Jean-François Roger. Et donc, j'étais pas depuis très longtemps à Paris, je pense. Et déjà, donc, il y avait le dépaysement parisien, puisque je viens du sud de la France. Et puis un dépaysement encore plus énorme, c'est-à-dire qu'en effet, à Paris, dans les salles de cinéma, on passait ce genre de film que je ne...
Enfin, c'était à la Cinémathèque, quand même.
Oui, quand même à la Cinémathèque. Oui, c'est vrai que ça passait pas dans tous les cinémas de Paris, malheureusement. Mais d'un coup, quelque chose que je n'ai absolument rien compris la première fois, d'autant qu'il y avait évidemment, comme souvent ça peut arriver, deux bobines inversées, donc évidemment
des personnages sur l'expérimental,
voilà, des personnages ressuscitaient après, voilà, mais finalement c'était tout à fait francoïste ou franquien de faire ce genre de choses. Et à partir de là, je me suis demandé qui était ce cinéaste, et j'ai commencé à acheter des fanzines, à aller par exemple chez Norbert Moutier, qui tenait une
Square Montholon,
voilà,
nous y avons tous été
dès le départ en 1997.
Soudoyer Norbert pour qu'il nous loue des
des VHS
improbables,
mode de mauvais genre.
Et c'était on se rend compte en parlant que c'était aussi une partie un peu maintenant un peu qui appartient au passé en fait, de la cinéphilie, où il fallait aller en effet chez Norbert Moutier prendre des VHS, où tout ne pouvait pas se trouver en quelques clics de liens sur Internet. Ça prenait du temps, parfois des années, pour arriver à reconstituer à peu près une œuvre.
Bah, dans le cas de Franco.
Dans le cas de Franco, c'était absolument impossible. Déjà par sa taille, les 200 films, et puis pour des films qui étaient perdus dans des sociétés espagnoles, porno, etc., et qui maintenant sont plus ou moins disponibles. Ce qui est étonnant, c'est que ça devient disponible.
En plus, c'est des films qui sont dans des versions différentes.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est caviardé avec du porno, donc on peut voir 3 ou 4 versions d'un même film.
Ah oui, et puis et même dans des histoires complètement différentes, on voit les films qui reviennent, ou alors des films qui ont l'air d'être un seul film. Je pense à ces films de femmes en prison. Voilà, on retrouve les mêmes actrices, les mêmes décors, et tout fait une sorte de continuum complètement fou, comme un château sadien, justement. Voilà, avec des femmes séquestrées, torturées.
Dont l'un avec Ilsa, jouée par Diane Thorne.
Oh oui, qui s'appelle Greta, d'ailleurs, je pense. Et donc, oui, voilà, c'était un labyrinthe de films, d'acteurs, d'actrices aussi, parce que là, c'est le Dan Miranda dans Vampiros Lesbos, et puis Lina Romay, dans pratiquement toute sa carrière à partir des années 70. Voilà, c'était un labyrinthe où j'avais envie de me perdre, et c'était quelque chose où je sentais qu'il y avait aussi beaucoup de difficultés, parce que j'avais envie de l'analyser, de savoir comment ça marchait, un film de Jess Franco. Et en tout en sachant qu'il allait falloir lâcher un peu la bride à des réflexes, d'analyste ou d'historien conventionnel.
Vous écrivez avec une obstination et une rage peu commune. Jess Franco est parvenu à construire une œuvre expérimentale au cœur du cinéma d'exploitation, cinéma sensoriel, cinéma mental, ou pour reprendre la très juste expression de Serge Bonzon, cinéma full charnel. Donc c'est un peu ça. Vous avez à la fois, il y a un désir d'analyse chez vous, il y a un désir de compréhension, de vivisection du cinéma, et en même temps il y a un désir de vertige. Alors avec Franco, vous avez les deux. Vous avez une espèce d'errance comme ça, vertigineuse, et en même temps vous pouviez travailler un peu la forme chez Franco.
Ah oui, se perdre dans ces plans improvisés, extrêmement étirés, où il va se perdre dans la peau, et puis les sexes aussi grands ouverts de ces actrices. Alors il y a vraiment des expériences étonnantes qu'on peut faire. Par exemple, je me souviens à la Cinémathèque, pendant la rétrospective, qui était en 2000...
J'avoue que le...
C'était il n'y a pas très longtemps.
Il n'y a pas très très longtemps.
C'était il y a peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais.
Voilà. Ils avaient passé Dorian Gray. Voilà son adaptation du portrait Dorian Gray avec Lina Romay. Et on était quand même dans la salle Langlois. Et il y avait, sur cet écran géant, il y avait la vulve de Lina Romay, comme ça, énorme. Et tous les spectateurs qui étaient là, qui regardaient, mais comme un objet littéralement de vénération, quoi. Voilà, et il n'y avait pas d'autre mouvement que ça, quoi. S'il n'y avait pas une scène porno, il n'y avait rien d'autre que cette caméra qui se rapprochait et qui se retirait, ça passait dans le flou, ça redevenait net. Voilà, ça c'est des expériences qui sont absolument absolument étonnantes.
À la fin de votre film, de votre livre sur Franco, c'est ça, il y a cette partie qui s'appelle « Jouir dans l'image ».
Oui, oui, exactement, c'est une image qui... on sent qu'il a... c'est un cas de je sais pas comment on peut dire, sexualité cinématographique, Jess Franco, voilà, où c'est là. Transmettre le plaisir qu'on prend au spectateur, mais voilà, qui n'a rien à voir avec de la pornographie conventionnelle.
Stéphane Duménildo, Le miroir obscur, une histoire du cinéma des vampires. J'en ai lu un extrait d'ailleurs en ouverture d'émission. Alors là aussi, on a ce sentiment que vous évoquiez à propos des films de Franco, où tous les films finissent par se fondre en un grand continuum érotique et visuel. Là, c'est un peu pareil, on a l'impression que vous ne parlez que d'un seul film. De Nosferatu à Flèche, même au film qui ont suivi de Ferrara. On a l'impression que c'est la même histoire qui se transforme et tout finit par créer une sorte d'appareil comme ça qui matérialise, qui remouline la même histoire en permanence. C'est le cas de toutes les histoires de vampires. Mais là, on a vraiment ce sentiment-là, que vous assistez au même film, que c'est un seul film.
C'est vrai que, mais pour revenir un peu aussi sur ce qu'avait dit Fausto, après Jess Franco, je vais parler pas mal de vampires, mais de sexualité. Donc après avoir parlé beaucoup des rapports entre le sexe et les vampires dans les sur Jess Franco, j'avais envie de parler des vampires, mais justement en ne parlant quasiment pas de sexualité, mais en parlant uniquement des rapports entre le vampire et le cinéma. Voilà comment le cinéma le ressuscite à un moment et lui donne vraiment de la puissance. Et justement comment cette figure du vampire cinématographique, c'est à la fois presque tous les acteurs de cinéma, ou le cinéma lui-même, mais comment, en effet, elle se métamorphose au fil du temps, mais selon les métamorphoses du cinéma lui-même, c'est-à-dire, ben voilà, la couleur crée un vampire en couleur qu'on n'avait jamais vu, le son crée aussi un vampire différent, et ainsi de suite, jusqu'à nos jours, en fait. Donc, le vampire du cinéma.
On a le sentiment d'ailleurs d'une sorte de transmission, de passage de témoin d'un acteur à l'autre, puisque le cinéma vampirique est un cinéma, je veux dire, qui s'emblématise dans des figures uniques, Bela Lugosi, bien évidemment Christopher Lee et d'autres, et à lire ces analyses de films qui se suivent chronologiquement, on a vraiment le sentiment d'une sorte de transmission, comme s'il y avait un dépôt sacré qui passait d'un acteur à l'autre, d'un cinéaste à l'autre, et que malgré l'évolution technique, quelque chose, une énergie sexuelle et visuelle était transmise.
Oui, comme une sorte de vampire éternel, en fait.
Tout à fait.
Voilà, oui, un vampire éternel qui peut être à la fois Bela Lugosi, mais qui peut être aussi Elle Fanning dans Twixt, ou Delphine Seyrig dans les Lèvres Rouges, par exemple.
Fausto Fasulo.
Moi, j'ai une question, en fait, toute simple. On a évoqué tout à l'heure le choc, entre guillemets, fondateur de Moonfleet. En ce qui concerne le cinéma de vampires, est-ce qu'il y a une image comme ça qui a créé une sorte de déclic chez vous?
Ah, ça, je... peut-être pas réellement. C'est plutôt la lecture du Dracula de Stoker, en fait. Voilà, que j'ai lu vers une dizaine d'années à peu près, et qui était complètement fascinante, en fait. Je pense que c'est ça. Et puis il y a aussi, aussi quelque chose qui est un livre très important, qui était Les Vampires du cinéma de David Piri, que j'avais acheté assez jeune, et qui était un recueil d'images folles, en fait. Hein. C'était un livre que j'ai dû lire dans les années 80, mais il y avait bon des pleines pages sur Jean Roulin, par exemple, sur des films j'ai attendu très longtemps avant de voir, donc qui ont pu créer une sorte de machine fantasmatique. Et en plus, c'était très, j'aimais beaucoup l'écriture de Piri et ses comparaisons. Par exemple, il disait, Jean Rollin montre comme Kubrick qu'on ne peut pas faire que du cinéma esthétique. Alors, voilà. Je crois que c'est le seul écrivain de cinéma qui a mis Kubrick et Rollin dans la même phrase.
c'est assez formidable. Mais c'est intéressant de voir que la question du vampire passe par l'image. C'est-à-dire que vous dites que c'est fascinant la lecture de Stoker parce qu'on sent que vous faites des images derrière. Et parce que Coppola, il met son Dracula avec la naissance du cinéma en même temps.
Oui, c'est vrai que le livre de Stoker est déjà un livre de cinéma. C'est une sorte de livre de pré-cinéma. Il est vraiment à la lisière. Hein. Il aurait pu, donc c'est 1896, donc il aurait pu inclure le cinéma à l'intérieur de son livre, puisque par ailleurs il parle du téléphone. Enfin, il y a vraiment, c'est aussi un livre qui rassemble toute la modernité de l'époque, en opposition donc à la vieille sorcellerie des Carpates. Donc, il aurait pu mettre le cinéma, mais en même temps, il fait le livre est une telle dramaturgie, voilà, aussi théâtrale que le cinéma est présent. Quoi. Il y a aussi l'idée de créer un grand rôle, voilà, dans le Dracula de Stoker, c'est-à-dire qu'il y a une idée de créer une figure de répertoire. Bon, Stoker, il visait le théâtre aussi, il aurait aimé qu'il y ait une vraie adaptation de Dracula au théâtre, c'était
ça.
Il y en a eu.
Ça a même commencé par là, enfin, je veux dire.
Ouais. Et que Dracula devienne un rôle de répertoire. Mais c'est le cinéma qui l'a plutôt...
Parce que si on voit l'ouverture du compas historique que fait Coppola, ça commence avec les luttes contre les Ottomans. Donc on est, je sais pas, à la fin du Moyen-Âge, la fameuse l'ordre du dragon, la chevalerie, je dirais, anti-ottomane, et pour aller jusqu'à l'invention du cinéma. Donc c'est quand même beaucoup plus large que la plupart des films de vampires qui se réduisent à une intrigue, la plupart du temps, liée au 19e siècle, enfin une intrigue du 19e siècle.
Il y a l'idée d'anthologie chez Coppola, de rassembler lui aussi tous les vampires du cinéma d'une façon ou d'une autre, de faire revenir Nosferatu, de faire revenir les ombres de Dreyer, évidemment Lugosi, puisque Guy Holman est beaucoup plus proche de Lugosi en fait que bien d'autres, que de Christopher Lee par exemple, et aussi de vampiriser des œuvres d'art. Par exemple, moi j'aime beaucoup le passage de l'autoportrait de Dürer, qui est un peu modifié pour ressembler à Gary Oldman et devenir un portrait Dracula. Voilà. Donc il y a cette circulation dans l'histoire de l'art qui est passionnante.
Le destin du rouge réside toujours dans le surgissement et l'éclaboussure, tel un orgasme de la couleur elle-même. Stéphane Dumenildo.
Bah oui, il y a qu'une couleur, c'est le rouge, hein, évidemment.
Bah déjà dès le cauchemar de Dracula.
Oui.
Alors nous avons évoqué avec vous Stéphane Dumenildo, donc Jess Franco, les vampires, et puis l'autre pôle important de votre réflexion, de votre travail d'historien et de critique du cinéma, c'est l'Asie, et je recite les titres, donc L'adolescente japonaise, édition du Murmure, Fantôme du cinéma japonais, et puis celui dont nous allons parler maintenant, Memories of Murder, l'enquête, alors, c'est-à-dire que vous avez mené l'enquête sur l'enquête, c'est-à-dire que il y a eu un fait divers, une sorte de serial killer coréen, sur lequel Bong Joon-ho lui-même a enquêté, et vous avez enquêté sur l'enquête de Bong Joon-ho. Donc là, il y a véritablement, c'est plus la vertu de vertige, d'hallucination, c'est la dimension analytique, là, c'est l'enquête de terrain.
Oui, là, ça fait des enquêtes gigognes, en effet, mais c'est vrai que l'histoire du film mériterait peut-être qu'elle sera un jour tournée, en fait, hein. Qui est une adaptation de l'histoire du tournage de Memories of Murder, parce que c'est assez fascinant. Bon, déjà, il y a cette situation historique du cinéma coréen qui est en train de. Qui est en train de fourbir ses armes pour envahir les festivals et le monde avec des jeunes auteurs extrêmement talentueux comme Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Kim Ji-woon et d'autres. Et cette chance qu'a Bong Joon-ho de rencontrer un producteur qui lui donne quasiment un an de 6 mois de tournage, en tout cas un an de production. Et qui lui permet, voilà, de passer 6 mois à écrire son film. C'est-à-dire que pendant une certaine période, Bong Joon-ho n'écrit pas, il va se mettre à enquêter lui-même sur les meurtres, à rencontrer des policiers, à retourner sur les lieux, dans le village, et rencontrer des chamans, et puis aussi les commerçants, les coiffeurs, etc. Donc les meurtres sont passés pas si longtemps avant, finalement.
Donc il y a 10 femmes assassinées.
10 femmes assassinées. C'est 86-91, voilà. Les 10 meurtres.
Donc ça fait une quinzaine d'années, donc on peut imaginer qu'il retrouve vraiment...
C'est début des années 2000. Le film sort en 2004 en France, il est fini en 2003... Donc il le tourne en 2002 et donc il enquête, oui, c'est 10 ans après, quoi. 10 ans après la fin des meurtres.
Il y a vraiment l'occasion de trouver quelque chose, mais aussi de replonger dans un passé politique qui est donc ce passé de la dictature militaire. Et voilà, et donc tout ça va mener à l'écriture de son scénario, donc à cette espèce de tissage très très fin entre le thriller, le film serial killer, mais aussi donc le cinéma politique et la peinture de la société coréenne des années 80. Mais Bong Joon-ho va surtout être complètement obsédé, c'est-à-dire qu'il va devenir une sorte de profiler, et comme dans les films américains, on pense au Sixième Sens, Manhunter de Michael Mann, donc être peu à peu obsédé par cette histoire et se mettre à recevoir des coups de fil inquiétants de gens lui demandant d'arrêter son scénario, en tout cas voulant prendre des renseignements sur lui. Donc voilà, il est dans un état psychologique très fragile, il est aussi complètement obsédé par l'histoire de la plus jeune victime, une collégienne de 14 ans qui a été violée et assassinée. On se rend compte, ça a l'air de lui causer beaucoup d'angoisse et lui faire faire des cauchemars aussi. Et même maintenant, lorsqu'on voit dans le DVD Blu-ray de Memories of Murder, le documentaire qu'a réalisé Jesus Castro, Bong Joon-ho, c'est quelqu'un de très agréable, hein, très accorte, mais lorsqu'il parle de Memories of Murder et lorsqu'il parle de ce meurtre, on le sent extrêmement assombri. Il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas et qui a l'air encore de le travailler.
Posto ?
En tout cas, c'est plus que plaisant, c'était même nécessaire. Il y a très peu de littérature en fait sur le cinéma coréen, que ce soit en français ou même en anglais. Donc c'est assez rare de trouver des informations, même sur le cinéma contemporain. Moi, j'avais vraiment une question concernant comment on travaille sur ce type de matière-là. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'était la première fois que vous travailliez. Je n'irai pas jusqu'à dire autant en profondeur, puisque effectivement le livre sur les fantômes japonais aussi, vous expliquez que vous êtes parti à Tokyo, vous avez rencontré des réalisateurs, etc. Mais là, il y a vraiment un focus de fait sur un film, et sur un film très particulier. Est-ce que, au niveau de l'écriture, on s'y prend un petit peu différemment? Est-ce que ça désamorce quelques automatismes que vous aviez auparavant, si tant est que vous en aviez? Comment on travaille justement sur un livre à thématique unique et avec une telle... sur une œuvre qui a une telle densité.
Stéphane Dumenildo.
Je pense qu'il fallait garder en tête avoir quelque chose d'un peu romanesque quand même. Voilà, raconter une histoire, faire un peu faire un peu de storytelling, ce genre de choses, pas à l'américaine, mais en tout cas, voilà, qu'on suivait d'un personnage principal qui était Bong Joon-ho. Depuis l'écriture, même depuis l'adolescence.
Depuis les meurtres. Comment il vit presque lui les meurtres.
Oui, pendant son adolescence, et aussi un peu aussi quel genre de personnage était Bong Joon-ho quand il était enfant, quand il était adolescent, et le suivre jusqu'à la réalisation du film. Voilà, je pense que c'est ça qui m'a servi de fil conducteur. Et puis bon, j'ai fait des longues interviews avec lui pour. Justement avoir des informations. J'ai aussi interviewé un critique qui politiquement assez virulent, qui m'a donné aussi qui m'a aussi parlé de la Corée à cette époque pour avoir un deuxième point de vue, en tout cas aussi un point de vue plus extérieur sur ces cinéphiles cinéastes qui sont apparus à la fin des années 90. Mais c'est vrai que c'était un peu différent, mais très très agréable aussi comme pour changer d'univers et changer d'écriture un peu.
Bah, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on disait que vous mettiez le côté personnel que vous liez à l'analyse, c'est ce que pointait François. Et là, en fait, le côté personnel, presque, vous le donnez à Bong Joon-ho. C'est-à-dire que en cours de route, c'est vous le faites réagir. Et du coup, c'est très très intéressant parce que bon, alors c'est un livre édité par l'Arabia, qui est aussi l'éditeur du DVD Blu-ray avec. Notamment ce documentaire qui a été fait par Jésus Quatreau dont vous parlez, qui a été fait là récemment, un vrai documentaire d'une heure, donc 15 ans après, on va voir Bong Joon-ho, ils vont voir aussi des gens de l'équipe technique, c'est vraiment un documentaire vraiment très très passionnant qui donne vraiment tout son prix à cette édition DVD Blu-ray, en plus du storyboard intégral et traduit en français qui est joint dans un livret à part. Mais dans une première édition du film, il y avait déjà un commentaire audio par Bong Joon-ho que vous avez lu. Donc en fait, vous arrivez déjà armé et l'idée, et ce qui est ça qui est passionnant dans le livre, c'est que vous lui faites dire autre chose. C'est-à-dire que c'est pas on va se dire bon bah on a déjà entendu Bong Joon-ho nous faire le commentaire audio de son film pendant 2 heures. Bon, c'est peut-être pas la peine de l'écouter pendant un livre. Bah si. Parce qu'il se passe d'autres choses.
Moi, j'étais un peu comme... là, c'est vraiment quelque chose de lié à une expérience spectateur. J'étais aussi obsédé de savoir si l'étudiant, en tout cas le jeune ouvrier, était le coupable. Évidemment, je voulais aussi démêler ça quand même depuis la sortie du film, donc depuis une quinzaine d'années. Quand même, c'est quelque chose qui nous restait en tête. C'est, ça hante, hein, ça c'est... notre ami Pacôme qui le dit, hein, que lorsque ça rend fou, les séries ne se terminent pas ou les coupables qui ne sont pas arrêtés dans les livres. Et là, c'était un peu pareil. Donc, je voulais avoir une opinion, savoir quelque chose là-dessus. Et j'étais assez content de le.
D'autant plus qu'on n'a jamais su qui était le tueur.
Oui, on n'a jamais su qui
était. Alors, vous qui êtes un spécialiste des fantômes, des spectres, je rappelle donc ce livre sur les fantômes du cinéma japonais, du coup, là, vous êtes au-delà du spectre, puisque le spectre, encore, il a la décence ou l'indécence de se manifester sous des formes variées, immondes ou à peine fuligineuses, comme ça. Mais là, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on est hanté par le vide, puisque ce personnage, on ne sait pas, un moment à la fin du film de Bong Joon-ho, Memories of Murder, celui qui a été le flic de campagne, le rural, qui travaillait avec un flic de la ville, a quitté, ça c'est très mal fini, il a quitté la police, il est maintenant, je ne sais plus, commercial, ouais. Et il retourne là où un cadavre a été trouvé, et il se penche sur cette espèce de gouttière à côté d'un champ bétonné, et il n'y a rien. Et en définitive, c'est ça, quoi, le film. L'obsession du film, c'est le vide.
Oui, c'est le vide. Et puis aussi, il a changé, hein, le policier. Alors au départ, on avait un homme de la campagne assez un peu frustre. Voilà, le gars de la campagne, quoi. Et puis, on le voit plusieurs années plus tard. Il a changé. Il est plus urbain, plus racé. Il est bronzé. Il porte un costume. Mais je crois que c'est pour nous montrer que le spectre hante encore la Corée. En fait, hein, le spectre qui est le spectre du tueur, hein, de ces femmes assassinées, mais aussi les spectres politiques qui sont toujours prêts à.
Ouais, c'est ça. Vous faites une lecture de ce fameux plan qui a été beaucoup commenté à l'époque, du plan final du personnage qui regarde la caméra, et vous racontez la genèse de ce plan, hein, avec cette idée géniale, parce que Bong Joon-ho avait dit à son acteur, il faut que tu aies un regard spécial. Et alors, les premières prises, c'était pas concluant, donc il lui a dit, en fait, fais comme si tu te retenais d'éjaculer. Et c'est comme ça qu'il a le regard qu'il souhaitait. En fait, c'est ce que, oui. c'est ce que Bongiulo vous dit. C'est assez formidable. Oui.
Michael Hoshi, le choix, le disque donc de Laurent Polleret pour Le Mauvais Genre. De cette semaine, nous recevons Stéphane Duménildo, à l'occasion notamment de la parution de Memories of Murder, l'enquête sur le film de Bong Joon-ho, paru aux éditions L'Arabia, mais également à l'occasion de tous les ouvrages qu'il a publiés auparavant. On termine par une chronique avec vous, Philippe Rouillet, Border d'Ali Abbassi, un événement France Culture et un événement Mauvais Genre. Bien
évidemment. Un événement cinématographique tout court. C'est un film qu'on a découvert à Cannes l'an dernier, au festival où il était à Section Un Certain Regard, il a remporté le Grand Prix. Et voilà, et c'est un deuxième film. Le film arrive à Cannes, auréolé d'une réputation. On nous dit, attention, il faut aller voir ça, c'est quelque chose de très spécial quand on aime les mauvais genres. Alors, c'est un peu ennuyeux parce que l'idéal, c'est de connaître le moins du film pour l'apprécier, parce que le film fonctionne sur un certain nombre de révélations. Et donc, je serais tenté de dire qu'il faut y aller comme ça. C'est-à-dire qu'on commence avec une jeune femme qui a un visage assez monstrueux. Il y a d'ailleurs un personnage
néandertalien.
Ouais, qui dit hideuse salope. Parce qu'en fait, elle travaille. C'est un peu ambiance. Lovecraftien. Hein. C'est le terme hideux. Non, parce qu'elle travaille à la douane. Et à la douane, elle bénéficie d'un odorat très particulier. C'est-à-dire qu'elle. Alors on dit oui, d'accord, elle renifle comme un chien s'il y a de la drogue ou s'il y a de l'alcool. Mais c'est bien pire que ça, oui. Puisqu'elle peut renifler des photos pédophiles dans un téléphone portable. C'est-à-dire qu'elle renifle, en fait, la culpabilité. Elle renifle la culpabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que, le film, comme ça, c'est, et border qui veut dire frontière, alors c'est intéressant, elle est douanière, mais le film, c'est la frontière entre, évidemment, l'humain et l'animal, et il la filme, en ce début de film, presque comme un animal. Elle a une manière de renifler. Alors, il faut parler de l'actrice qui s'appelle Eva Melander. Elle joue évidemment avec énormément de prothèses sur la figure, 4 heures de maquillage par jour. Mais ce qui est très fort, c'est qu'elle arrive à exprimer des tas de nuances dans le jeu. Et y compris quand elle va être déstabilisée, parce qu'on dit c'est comme un super-héros, elle a ce pouvoir. Genre. Sauf que jusqu'au jour où elle voit arriver un bonhomme qui est un peu son équivalent. Et alors là, tout se dérègle, va y avoir une sorte d'histoire d'amour. Bon, et le film va rebondir et... On peut peut-être dire que c'est dans la, ça utilise le folklore scandinave et que ça va dans la lignée de Todd Browning, c'est-à-dire la monstruosité, totalement. Les monstres qui en apparence, avec à l'intérieur, c'est différent, et l'amour des monstres. Comment peut-on aimer les monstres? Les monstres peuvent-ils aimer? Et le monstre est l'humain.
Stéphane Duménildo, quelques mots.
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film, et j'ai interviewé Ali Abbassi, le réalisateur, qui est iranien en fait. Il est venu en Suède. Quand il avait une vingtaine d'années, pour faire une école du cinéma. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît bien les frontières aussi, et puis qui comprend bien ce que c'est qu'être dans un pays où, quand même, le modèle physique, c'est encore les acteurs de Bergman, peut-être. Enfin, ouais. Voilà. Et donc, lorsqu'on est iranien, évidemment, maintenant, on est un peu décalé. On se sent un outsider.
Border,
allez-y,
bien, merci.
C'est vraiment un film extraordinaire.
Oui, effectivement.
On en parlera quand le DVD sera sorti, où là, on osera aller dans le décryptage de
On vous en dira plus.
L'histoire.
Mais pour le moment, c'est à Christophe Beer de nous en dire plus, et même beaucoup plus.
Si l'on retire la jaquette de ce petit livre carré illustré traduit du japonais, on découvre un cartonnage d'un beau marron à peine foncé, premier indice. Quel en est donc l'objet d'étude? Un individu en produit 200 grammes par jour. Appliqué aux 125 515 000 habitants du Japon, on obtient environ 25 503 tonnes. Il faudrait une vingtaine de jours pour remplir entièrement le Kasumi Gazeiki Building, gratte-ciel historique de Tokyo d'une hauteur de 156 mètres. Ce calcul nous plonge au cœur du caca, titre de l'ouvrage. Avec un calcul encore plus exponentiel, la quantité de caca produite en un jour dans le monde permettrait de recouvrir les 23 arrondissements de Tokyo en 5 jours, quand il ne faudrait que 22 minutes pour en ensevelir Monaco. La quantité n'est pas tout. Les auteurs s'intéressent aussi à la qualité du caca. Le dessinateur Bunpei Yorifuji et Koichiro Fujita, professeur honoraire de la faculté de médecine de l'Université de Tokyo, spécialiste en parasitologie, nous aide à considérer avec plus de bienveillance ce que les dictionnaires déprécient comme un déchet. On défèque entre deux occupations, on tire la chasse et c'est fini, on n'y pense même plus, se désole-t-il. Or, les consistances et les formes de nos matières fécales sont révélatrices de notre état de santé. Le caca dit banane, en deux ou trois étrons, d'ocre à marron, est le signe d'un bon équilibre. Mais l'excellence serait un caca banane plus long, d'un seul tenant, venu d'une seule poussée, lovée sur lui-même, pyramidal en trois volutes, 400 grammes dorés, souple mais ferme, 80% de taux d'humidité, parfumé, symbole absolu d'une vie harmonieuse. Les scientifiques s'accordent sur l'importance d'une alimentation riche en fibres qui nettoie l'intestin, augmente la densité du caca et facilite sa sortie. Quelques divergences cependant. Le professeur Shimoyama de la faculté de médecine de Hyogo adore l'étron banane au bout bien net, coulant instantanément, tandis que le professeur Tsuji préfère le voir flotter sur l'eau. Une grande quantité de fibres, explique-t-il, signifie nécessairement une abondante quantité de gaz prisonnière de la matière fécale et l'étron flottera. Il coulera ensuite, plusieurs minutes plus tard, en laissant échapper des bulles. Voilà l'excrément idéal. Après la lecture de ce manuel amusant mais édifiant, vous aurez toutes les cartes pour soigner votre environnement intestinal, limiter les apports de lipides et de protéines animales qui favorisent la multiplication des bactéries pathogènes. Pensez aux haricots, aux céréales, aux légumes, aux champignons, aux algues et aux fruits secs, aux noix et aux amandes, vous déféquerez alors dans l'euphorie.
Merci au docteur Beer pour ses conseils de diététique et pour vivre son corps harmonieusement. Merci Stéphane Duménildo d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Je rappelle bien sûr tous vos livres qu'il faut lire. À l'Arabia, Memories of Murder, l'enquête. Chez Rouge Profond, trois titres. Magnifique. Jess Franco, Énergie du fantasme. Le miroir obscur, une histoire du cinéma des vampires et fantômes du cinéma japonais. Donc tout ça chez Rouge Profond. Et puis bien sûr, aux éditions Lu Murmure, l'adolescente japonaise. Et puis, pour les Hitchcockiens, coquins, La mort aux trousses est aux éditions Les cahiers du cinéma. Et puis à bientôt pour d'autres occasions. Et puis notamment votre livre sur l'Empire des sens dont vous nous avez parlé. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pondré, Bruno Mour, l'ancien Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Bir et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine où nous serons au Festival d'Angoulême en compagnie d'Antoine Guillot. Et d'ici là, bonne nuit à tous.